vêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Par son bras puissant, hey. Revêtu de force, entouré de gloire, ooh. Assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration, faisons monter, monter un parfum de louange.
Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi je monte, mais j'espère qu'on pourra toutes et tous faire montrer notre adoration aussi. Alors ce matin, bienvenue donc dans cette salle, à vous toutes et tous, que vous soyez pour quelques fois parmi nous ou bien régulièrement. Bienvenue aussi à ceux qui sont, celles et ceux qui sont derrière leurs écrans. Bienvenue aussi d'être parmi nous dans cette famille mérinoise et pour ce grand Genève. Et c'est chouette que nous puissions nous retrouver. Alors ce matin, je dirais qu'un anchot chasse un autre anchot, parce que ce sera Benjamin Anchot qui va nous faire la prédication. Donc il y a un échange de chair, d'église, et notre Philippe Anchot à nous, il sera à la pélisserie. Alors Benjamin, bienvenue, et aussi bienvenue à sa fille, je ne sais pas où elle est, un peu derrière, tout là-bas. Alors bienvenue aussi parmi nous. Je vous propose de prier pour... Alors quelqu'un m'a dit... Pendant la semaine universelle de prière, le Saint-Esprit, et c'est même Clémentine, le Saint-Esprit est un gentleman. C'est-à-dire qu'il rentre dans notre salle et puis il reste au fond. Si on ne l'invite pas à entrer, à venir parmi nous, il reste sagement dans son coin de salle. Donc ce que je vous propose, c'est d'introduire la prière et de demander au Saint-Esprit et à Jésus d'être parmi nous. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce moment que nous avons à être ensemble, cette famille mérinoise, cette communauté mérinoise, mais aussi, Seigneur, qui dépasse les frontières. Merci d'être présent parmi nous et, Seigneur, nous voulons vraiment invoquer ton nom, demander au Saint-Esprit d'être parmi nous. Seigneur, nous voulons aussi que nous puissions comprendre ce que tu vas nous dire, soit par les chants, soit par la prédication de Benjamin. Seigneur, nous voulons t'entendre, nous voulons être encouragés par toi, nous voulons vraiment que tu apportes dans nos cœurs et dans nos têtes quelque chose qui vient de toi. Alors Seigneur, nous voulons demander ta présence et que tu sois parmi nous et que Seigneur, que nous puissions te recevoir pleinement dans nos cœurs et dans nos têtes. Amen. Alors, j'ai un petit quelque chose pour les enfants. Alors il y en a deux, est-ce qu'il y en a d'autres enfants? Venez peut-être devant, comme ça on va faire un petit quelque chose. Venez les enfants, si vous voulez venir devant, il y a quelques places. Et puis comme ça, ça peut être un peu plus sympa.
À 12 ans, Jésus part avec ses parents en pèlerinage à Jérusalem en suivant une caravane. À la fin de la semaine, le jeune Jésus reste dans la ville sans que ses parents s'en aperçoivent. Ne le trouvant pas après une journée de marche, ils reviennent à Jérusalem et continuent à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'enfin il le trouve dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoute et leur pose des questions, et tous s'émerveillent de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents sont stupéfaits, et sa mère lui dit
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons été angoissés en te cherchant, ton père et moi. »
Il leur dit
« Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?»
Marie et Joseph ne comprennent pas cette réponse. Jésus rentre alors avec eux à Nazareth. Là, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des gens de Nazareth. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements mystérieux.
Alors les enfants, vous avez vu, Jésus avait 12 ans. Est-ce que vous pensez qu'il allait à l'école, qu'il a été à l'école à 12 ans ?
Non.
Tu pensais qu'il n'allait pas à l'école ? Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Est-ce que tu crois que Jésus allait à l'école à 12 ans ?
Non.
Non plus ? Alors, moi je pense, c'était peut-être pas la même chose que maintenant, mais je pense que oui quand même, parce qu'il a appris à lire et puis à écrire. Donc je pense qu'il devait y avoir quand même un petit peu d'école quand Jésus avait 12 ans, ou peut-être même plus petit. Ils apprenaient à lire dans la Torah. Nous, on a la Bible, mais eux, ils avaient la Torah, et ils devaient apprendre à lire la Torah. Donc je pense qu'il a été à l'école. Et puis, est-ce qu'il allait à l'école du dimanche ?
Non, mais au temple ? Non.
Non plus ? Non, vous ne pensez pas qu'il allait à l'école du dimanche ? Peut-être qu'effectivement, il allait au temple, et puis qu'il apprenait, il lisait, il entendait des adultes, la lecture de la Torah, de leur Bible à eux, la Torah. Donc, peut-être qu'il allait le dimanche aussi, mais vous, je vous propose qu'après les chants, après la louange, vous rejoigniez aussi votre école du dimanche, où vous allez apprendre aussi quelque chose sur Jésus et sur Dieu. Alors je vous propose qu'on chante, qu'on ait ce moment de louange ensemble. Et vous, les enfants aussi, chantez avec nous. Parce que les enfants, les adultes, on est tous ensemble pour louer notre Père, pour dire à Jésus qu'on l'aime.
Merci pour la croix, merci pour ton sacrifice parfait. Voilà ce que nous allons chanter maintenant.
tant de haine et de violence, supportée dans le silence, le sang coule sur la croix, je m'approche de ce voile, à genoux. Sois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas.
Je veux
pas. suis là à tes pieds. Je
voici mon cœur. faiblesse, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur.
Donne plus de guérison
pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur.
Alors pour prier pour que cette pluie de bénédiction vienne aussi sur les enfants qui vont rejoindre leur groupe maintenant et sur les moniteurs qui les enseignent. Oui, Seigneur, que tu sois avec eux et que ta parole soit aussi annoncée pour eux. Et qu'elle les fortifie, les aide aussi dans leurs défis qu'ils ont à leur âge. Merci pour ta présence avec nous. Amen.
Je vais vous lire deux textes. Le premier dans Romains. Romains 5, versets 6 à 9. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Et puis, dans Jean 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non de le fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu.
Merci pour ces lectures, merci pour ce temps de louange. Ça fait plaisir d'être ici ce matin. Donc, je m'appelle Benjamin Anchaud. Ça n'a rien à voir avec Philippe Anchaud, on n'a pas de lien de parenté. Je suis pasteur à l'église L'Espérance, une autre église Frey, et on a fait un tournus ce matin entre les quatre églises Frey de Genève. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, je suis papa de quatre enfants, il y a ma fille aînée qui est là ce matin. Et ce matin, ça tombe bien, on va parler de famille. Avant d'aller plus loin, je vérifie juste que la technique, ça fonctionne. Normalement, j'appuie sur un bouton et ça fait apparaître des choses à l'écran. Ah, ça fonctionne. Voilà. Donc, on va parler de famille. Est-ce que votre histoire de famille est une histoire paisible ? La Bible regorge d'histoires humaines et donc d'histoires de famille. Et on va le voir ce matin. Toutes les histoires de famille dans la Bible ne sont pas des histoires paisibles. En fait, ça reflète assez bien ce qu'on vit, voire des fois même à un autre niveau de ce qu'on vit. Je crois que quand on se pose la question de notre valeur, vous savez, des fois on est un peu dans le trouble, on se pose des questions, on se dit mais quelle est ma place ici, quelle est ma place dans la société, pourquoi est-ce que j'ai cette vie-là, quel est ce qui m'attend demain ? Il me semble qu'assez rapidement, on se tourne en arrière. On regarde d'où on vient et puis on se dit « Ah mais oui, c'est parce que je suis né dans telle famille, mes parents étaient comme ceci, puis j'ai vécu comme ça et c'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. » Et en général, quand on est dans ce mode-là, « Et c'est pour ça que je n'y arriverai pas. » Alors des fois, on se dit aussi « Ah, ben, j'ai une superbe famille et puis je n'ai rien à craindre. » Mais en général, quand on se pose toutes ces questions, on est plutôt en train de se dire que c'est la catastrophe et que tout va mal se passer. Et puis, des fois, il y a des histoires dans les familles qui sont vraiment pas drôles, qui sont vraiment compliquées. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre famille, mais l'histoire qu'on va voir ce matin, c'est l'histoire de Judas. Et je doute que votre histoire de famille soit aussi compliquée que celle de Judas. En tout cas, on va le voir. Parce que vous savez, quand on sort de chez nous, on va à l'église, on va au travail, on met notre belle chemise, on se part de notre beau sourire et tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans le secret de nos cœurs? Et je crois que, en fait, peu importe d'où on vient, peu importe la chemise qu'on porte, finalement, les questions qu'on se pose, elles sont à peu près, pour tout le monde, les mêmes. Alors, on va voir ce matin l'histoire de Judas. Et c'est une histoire qu'on lit en Genèse 38. On va voir une petite partie de sa vie. Mais j'aimerais remettre un peu le contexte avant qu'on trouve en Genèse 37. Ça commence par Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac, qui est lui-même le fils d'Abraham. Et puis, il s'est marié. Peut-être vous vous souvenez, il a d'abord épousé Léa, et puis ensuite, une semaine après, il a épousé Rachel. C'est deux sœurs. Léa lui donne un fils, Ruben, un deuxième fils, Siméon, puis Lévi, puis Judas, c'est lui sur qui on va s'arrêter. Et puis, Rachel, à côté, elle est triste parce que Léa a plein d'enfants et elle n'a pas d'enfants. Alors, elle a une idée. Elle se dit, mais j'ai pas d'enfants, mais j'ai une servante qui s'appelle Bila. Et je pourrais la donner à Jacob. Et puis comme ça, quand ils auront des enfants, ce sera un peu les enfants de Jacob et moi. Ça nous paraît hyper étrange aujourd'hui, mais il paraît qu'à l'époque, ça se faisait. Donc, elle donne Bila à son mari, Jacob, et puis, de cette union, naît Dan, puis Nephtali. Alors bon, là, la concurrence est là, Léa, elle se dit, c'est en train de mal se passer, cette histoire. Hein. Moi aussi, j'ai une servante qui s'appelle Zilpa. Je pourrais aussi la donner à Jacob. Et puis, de cette union, naissent Gad, Asher. Et puis, Léa a encore des enfants, Issachar, Zabulon. Ils ont aussi une fille qui s'appelle Dina. Et puis, finalement, enfin, Rachel, qui est, on le rappelle, hein, c'est la bien-aimée de Jacob. C'est, à la base, c'est elle que Jacob voulait épouser. Puis, il s'est fait un petit peu tromper par son beau-père. Voilà, les histoires de famille, vous connaissez ça. Et Joseph naît. Ah, Joseph, c'est, bien évidemment, déjà, c'est le petit dernier. Et en plus, l'enfant de Rachel, donc c'est le petit chouchou. Il y a aussi Benjamin qui vient après. Et puis j'ai encore mis Manassé et Ephraïm parce que Jacob va en quelque sorte adopter Manassé et Ephraïm. Donc voilà la grande famille de Jacob. Hein. Moi, j'imagine pas trop les histoires qu'il devait y avoir entre frères et sœurs là au milieu. Et Joseph, c'est le petit chouchou. C'est celui que vraiment Jacob chérit et il ne le cache pas. Et puis le petit chouchou, il fait des rêves. Et dans un de ses rêves, il voit toute sa famille se prosterner devant lui. Alors pour ses frères, parce que bien sûr il raconte son rêve, alors pour ses frères, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des disputes entre frères et sœurs. Moi, je rencontre régulièrement des familles et puis je vois bien qu'il y a des disputes entre frères et sœurs. J'ai moi-même des frères et sœurs. Ça arrive aussi qu'il y ait des petites bisbilles. Heureusement, j'ai la grâce, rien de grave. Je rencontre des familles où les frères et sœurs ne se parlent plus. Ne se parlent plus depuis des décennies. Et des fois, ils disent même qu'ils ne se parleront plus jamais. Mais là, on est à un autre niveau. Hein. Parce que Joseph, il est envoyé par son père pour aller voir ses frères dans les champs qui sont en train de garder les moutons. Puis ses frères le voient arriver de loin. Alors ils se disent, il y a le petit chouchou qui arrive. Vous savez ce qu'on a fait, il nous casse les pieds, il faut que ça s'arrête, on va le zigouiller. Hein, on le tue, on met un peu de sang sur son habit pour faire croire qu'il s'est fait déchiqueter par une bête féroce, et c'est réglé. Mais Judas, ça le chicane un petit peu tout ça. Alors il va vers ses frères et puis il dit, mais écoutez, on ne va quand même pas faire ça, c'est pas très intelligent. On pourrait le vendre, hein, comme ça. Ça nous rapporte de l'argent, et puis le résultat est le même. Alors normalement, celui qui aurait dû défendre son frère à ce moment-là, ce n'est pas Judas, c'est le quatrième dans la position. Normalement, c'est Ruben, parce que c'est le fils aîné. Normalement, celui qui va avoir l'autorité, représenter le père, prendre soin de ses frères, c'est le frère aîné. Mais Ruben, il a été en quelque sorte déchu de son rôle d'aîné parce qu'il allait coucher avec Bila. Et puis, normalement, après Ruben, c'est Siméon et Lévi. Mais Siméon et Lévi, ils ont zigouillé tous les habitants de Sichem parce qu'ils, pour venger leur sœur Dina qui avait été violée. Et donc, c'est Judas qui se retrouve, et si vous lisez la suite de la Genèse, c'est assez intéressant de voir que c'est Judas qui se retrouve comme fils aîné, comme héritier de la promesse. Et on le voit ici, en quelque sorte, prendre la défense de son frère. Et c'est ainsi qu'on arrive, dans ce contexte-là, qu'on arrive en Genèse 38. Et moi, je crois que cette histoire a dû profondément déranger Judas. C'est en tout cas comme ça que je lis le premier verset de Genèse 38. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adoulam appelé Ira. Donc, dans la mise en contexte, on voit que l'histoire de famille de Judas est très compliquée. On parle souvent de famille recomposée. Et peut-être que dans cette situation-là, on devrait plutôt parler de famille décomposée. Judas s'éloigne de cet environnement toxique. Et là, dans son nouveau contexte de vie, il rencontre une belle femme. Elle s'appelle Choua. Alors, on ne sait pas comment elle est physiquement, hein, mais quand un homme tombe amoureux d'une femme, ça devient instantanément la plus belle d'entre toutes. Donc, on va dire qu'elle était très belle. Il l'épouse, il a des enfants, et trois fils naissent de leur union. Er, Onan et Shéla. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne une descendance à ton frère. » Alors là, on se dit, bon, c'est un peu bizarre, c'est parce qu'on est des Occidentaux du XXIe siècle et que c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Mais à cette époque-là, ça se fait d'ailleurs toujours dans certaines parties du monde, quand un mari meurt et laisse une veuve sans enfant, c'est le frère qui la prend pour femme et l'enfant qui naît de cette union est l'enfant du frère. Il faut se dire aussi qu'à cette époque, une femme seule, elle ne peut pas travailler, elle n'a pas d'avenir, et c'est aussi une certaine protection qui est là pour la femme. Ainsi donc, Tamar devient l'épouse d'Onan. Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Tamar se retrouve une fois de plus veuve. Alors normalement, vous voyez, hein, normalement la suite logique, c'est que Shéla devrait épouser Tamar. Mais Judas, il a peur, il se dit, mais si mon dernier fils épouse Tamar et qu'il meurt aussi, ça ne va pas aller. Alors il dit à Tamar, écoute, mon fils, il est trop jeune, attends un petit peu, je te donnerai plus tard comme mari. Et ce qui doit se passer arrive, c'est qu'il ne donne jamais il donne jamais Shéla comme mari à Tamar. Et puis, donc Shéla grandit, Tamar finit par comprendre qu'elle va rester chez son père jusqu'à la fin de ses jours. Et puis on lui dit, ton beau-père va arriver dans la ville pour faire tondre ses moutons. Judas va faire tondre ses moutons. Il arrive dans la ville de sa belle-fille et elle se dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Alors elle quitte ses habits de veuve, elle se met en voile, elle va vers la porte de la ville. Et là, Judas arrive. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sa femme est morte. La femme de Judas est morte, Choua. Voilà, il est seul depuis quelque temps, on ne sait pas combien de temps, et il arrive dans cette ville. Et il prend sa belle-fille pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit « Quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton seau, ton cordon et ton bateau que tu tiens. » Il les lui donna, puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Voilà, Judas est un homme de parole, donc quand il arrive de retour chez lui, il fait envoyer un chevreau par son ami, l'Adulamite. Puis l'Adulamite arrive dans le village, pas de prostituée. Bon, il pose une ou deux questions, mais elle est où la prostituée qui se tient à tel endroit et tout ? Mais il n'y a pas de prostituée ici, qu'est-ce que tu cherches ? Alors bon, Judas, il dit, bon, vous savez, dans ce genre de cas, on ne fait pas trop d'histoire. Hein. Il dit, bon, ben, écoute, tu reviens, on laisse ça tranquille. Ma foi, tant pis pour mon seau, mon cordon et puis mon bâton. On va faire autrement. Mais seulement, Tamar est enceinte. Quand une femme est enceinte, au bout de quelques temps, ça commence à se voir. Les semaines passent, son ventre s'arrondit. Et on vient chercher Judas pour lui dire, ta belle-fille, Tamar, s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Ah, c'est embêtant ça. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça ? Alors Judas, il n'y va pas par quatre chemins. Et il la fait chercher, on l'amène dehors pour qu'elle soit brûlée. C'est réglé, dans des cas comme ça, il faut être radical. Et puis alors, elle fait dire à Judas, c'est l'homme à qui appartiennent c'est l'homme à qui ces objets appartiennent, que je suis enceinte. Elle ajouta, reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Shéla. Judas reconnaît son erreur et revient donc sur sa décision. Évidemment, c'est un peu compliqué pour lui maintenant de demander qu'elle soit brûlée. Et quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier ». Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte ?» et on l'appela Pérez. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérar. C'est une histoire de famille bien alambiquée, comme je n'en ai jamais rencontré. Judas est né dans une famille compliquée. Il part pour s'éloigner de cet environnement toxique, mais sa situation familiale ne se simplifie pas. Tamar, la fille de son fils aîné, devient la femme de son deuxième fils, puis, en quelque sorte, sa propre femme. Et de cette union naissent Pérez et Zérar. Je me demande comment Pérez et Zérar ont grandi. Lorsqu'on est troublé, on a une tendance naturelle à revenir à ses origines. Or, quand ils regardaient en arrière, qu'est-ce qu'ils voyaient ? Leur mère a usé de tromperie pour coucher avec leur grand-père. Et d'ailleurs, étaient-ils considérés comme les enfants de Judas, de Er, de Non ? Sur cette dernière question, on a une réponse, pas sur les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la presse People. En général, les gens aiment lire les articles People. Pourquoi est-ce qu'on aime lire un article People avec tous les potins sur les stars qui se sont mariés, démariés, remariés, qui ont des enfants, qui n'ont plus d'enfants ? Eh bien, je crois qu'une des raisons, c'est parce que monsieur et madame tout le monde, dont on fait partie, sont rassurés en lisant ces histoires. Quand on voit des grandes stars qui, à vue humaine, ont bien réussi, qui se cassent la figure, on se dit ah, « ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux, mais finalement, ma vie, elle est quand même bien plus simple et bien meilleure ». On pourrait avoir la même tendance avec l'histoire de Judas, de se dire « bon, heureusement, moi, ça va bien mieux que lui quand même ». Et j'aimerais ce matin vous inviter à avoir un autre regard sur cette histoire. Plutôt que de se laisser gagner par un sentiment de supériorité qui viendrait flatter notre ego, eh bien, d'y voir la grâce de Dieu. Une grâce qui a accompagné Judas, qui a accompagné Pérez, Zérar, Tamar, qui a accompagné toutes les générations jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Normalement, Pérez et Zérar auraient dû être des laissés pour compte. Vous savez, quand il y a des histoires de famille comme ça, en général, on dit, ces gens-là, on ne s'en approche pas. Ils vivent dans leur coin, mais surtout, n'allons pas trop près d'eux. Et pourtant, Dieu a une attitude radicalement différente. Souvenez-vous, Judas, c'est le fils de Jacob, qui est lui-même le fils d'Isaac, qui est lui-même le fils d'Abraham, et il est héritier de la promesse. La promesse, c'est qu'un jour, dans la descendance, il y aura le Messie. Et voilà, dans la généalogie de Jésus-Christ, qui retrouvons-nous ? Judas et Tamar, et après Pérez et Zérar. Le Fils de Dieu, le roi de l'univers, celui qui est parfaitement saint, dont la venue a été le point de bascule de l'univers, a choisi comme ancêtre Pérez et Zérar. Pourtant, leur mère est d'origine cananéenne. L'histoire d'amour de leurs parents est vraiment trouble. Et ils figurent dans la généalogie de Jésus-Christ. Même Zérar, qui n'est pas directement dans l'ancêtre de Jésus-Christ, il est là, ils sont les deux là. Dieu ne les a pas oubliés. Dieu leur a fait grâce. Les laisser pour compte, il les a choisis pour faire partie de son plan de salut pour l'humanité. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette histoire me renvoie à ma propre histoire. Et je me dis, mais des gens comme ça, Dieu les a choisis pour parler de son histoire de salut. Nos histoires de famille, elles sont ce qu'elles sont. Et en lisant la Bible, on ne se frotte pas la poitrine en se disant, ah, tu vois, ridicule, heureusement que dans ma vie, il y a plus d'ordre. Non, quand on voit ces histoires, on se dit, mais Dieu, tu es tellement grand, tu es tellement bon, tu as même choisi des gens insignifiants pour faire avancer ton plan de salut pour toute l'humanité. Alors, si tu as pu faire aussi quelque chose avec des hommes comme ça, eh bien, tu pourras faire quelque chose avec moi. Car peu importe notre origine, Dieu accorde de la valeur à chacune de ses créatures. Pérez est devenu l'ancêtre de Jésus. Qui vas-tu devenir ? Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et il aimerait t'associer à son plan de salut. Non pas parce que tu es né dans une bonne famille, non pas parce que tu vas à l'église depuis tes 3 ans ou même avant, mais simplement parce que Dieu t'aime. Et il le montre de bien des façons. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Mais à peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Jésus n'a pas hésité à mourir pour nous, alors qu'on était encore loin de Dieu, étrangers à ses promesses, soyons rassurés. Dans ce qu'il nous attend, il va nous donner aussi tout ce dont on a besoin pour avancer dans la vie. N'ayons pas peur, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et il va t'associer à son plan de salut. Et on ne sait pas ce qu'il va faire de nous. Je ne sais pas si Zérar et Pérez, s'ils étaient conscients qu'ils allaient être mentionnés dans la généalogie du plus grand homme que l'histoire de l'humanité ait connu. On ne sait pas ce que Dieu va faire de nos vies. Et il n'y a pas d'âge. Abraham, il avait quel âge quand il a eu un enfant ? Il n'y a pas d'âge pour être associé au projet de Dieu. Lorsqu'on est seul, qu'on se retrouve dans son lit le soir à méditer sur ses origines et sur toutes ces histoires de famille qui parfois nous empoisonnent la vie. Quand on est dans l'adversité, des fois on se dit, mais il y a une malédiction qui est là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ne nous laissons pas abattre. Et souvenons-nous que tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont le droit d'être appelés enfants de Dieu. En Jean 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté la parole de Dieu, le Christ, la lumière du monde, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et aucune malédiction, aucune histoire tordue ne pourrait nous arracher de sa main. N'en doute jamais. Souviens-toi de Peretz et surtout souviens-toi de Jésus. Et je crois que quand on est affermi comme ça, comme enfant de Dieu, ça nous permet aussi de regarder nos frères et sœurs dans la chair, nos parents, d'une autre manière et de pouvoir les honorer, les respecter pour qui ils sont et avoir un regard de grâce sur eux, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils nous ont dit, sachant que nous avons été pardonnés, nous sommes devenus comme un diamant pur dans les mains de Dieu et que nous aussi, nous pouvons alors leur pardonner. Je vous invite vraiment à vous souvenir de Jésus dans le trouble. Il a tout donné pour nous. Nous sommes précieux à ses yeux et il nous associe à son histoire de salut. Je vous propose qu'on puisse prier. Seigneur, comment ne pas être ébloui devant toi? Tu es un Dieu si grand, parfait. Entre le Fils et le Père, il n'y a jamais eu le moindre problème. Et tu es venu sur terre. Tu es venu transformer des histoires compliquées, des histoires de haine, des histoires où il n'y avait pas d'amour, des histoires où il y avait la malédiction. Tu es venu les transformer en histoires d'amour. Tu es venu nous donner une nouvelle origine, une origine divine, une origine parfaite. Tu es venu donner de la valeur. Seigneur, nous te prions d'envoyer ton esprit pour que nous soyons assurés de notre identité d'enfant de Dieu. C'est un droit que tu nous donnes d'être appelé enfant de Dieu et nous voulons en être fiers. Seigneur, permets-nous de ne jamais douter de cela et que cette assurance que nous trouvons en Christ nous permette de regarder l'avenir avec confiance. Seigneur, tu as un chemin pour nous. Nous ne savons pas de quelle façon tu veux nous associer à ton histoire de salut. Mais nous en sommes heureux, nous en sommes fiers et nous voulons dire, viens Seigneur, prends toute la place dans nos vies personnelles, dans nos histoires de famille et que là où la malédiction, le non-pardon, les mots tordus, les histoires compliquées sont venus détruire, eh bien que ton pardon vienne restaurer. Que le Christ vienne rétablir chacun. Que ce qui a été mauvais soit cloué à la croix et que ce qui est beau soit exalté. Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos vies. Amen. Je vous invite à poursuivre par un temps de prière si certains veulent aussi prier, dire quelque chose au Seigneur.
Présence, plus qu'à une vie sans erreur, sans famille tordue, sans... Mais Seigneur, nous voulons nous accrocher à ta présence qui est réelle et qui, est, qui, nous, qui nous conduit sur ce chemin, des fois si compliqué ou si difficile. Alors merci Seigneur Jésus de cette présence, et nous pouvons être assurés de cette présence. Amen.
Tu n'as pas choix, oh Seigneur mon Dieu, tu n'as pas donné ta famille, Seigneur mon Dieu. Nous savons que tu es là, Seigneur, pour nous, nos familles, Seigneur mon Dieu. Nous prenons contrôle de nos familles, bon, ce matin, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, c'est toi seul qui dois, Seigneur mon Dieu, faire quelque chose, Seigneur. Merci, Seigneur, on ne contrôle pas nos familles, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui pourra nous délivrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est toi qui pourras, Seigneur mon Dieu, les amener à toi, Seigneur. C'est toi qui pourras, Seigneur mon Dieu, les délivrer, Seigneur mon Dieu, de vos ténèbres. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée, mon Dieu. Afin que cette parole puisse rester dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Afin que nous puissions aider nos familles, Seigneur, à venir à toi, Jésus. Quel que soit, Seigneur, comment ils sont, Seigneur. Mais c'est notre famille que tu nous as donnée, Seigneur. Alors donne-nous, Seigneur, Papa, la force, Papa, de prier avec eux, Seigneur, de les emmener à toi, au ténèbres. Nous bénissons ton nom pour nos familles encore ce matin. Nous bénissons ton nom encore ce matin, encore pour nos familles, Seigneur. Merci pour ta grâce sur nos familles, Jésus. Sois élevé, Seigneur, dans nos familles, Jésus. Sois glorifié, Papa, Seigneur, mon Dieu. Oh, nous te disons merci au nom de Jésus.
Seigneur, je te demande de nous faire réaliser toujours plus profondément le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Seigneur, nous sommes les enfants de celui qui a tout accompli pour nous sauver et qui nous veut pour l'éternité. Seigneur, qu'on ne s'habitue jamais de ce privilège, mais qu'on soit tellement reconnaissant. Seigneur, je te demande que tu nous accordes cette reconnaissance jour après jour. Et je te demande au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, je te demande tout notre amour, que tu nous accompagnes, que tu nous délivres, car nous t'aimons, nous te glorifions.
Amen.
Merci Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes, merci pour Saint-Esprit de m'avoir montré ce que je devais faire. J'ai été fâchée avec un de mes frères pendant 2 ans et c'était un grand chagrin pour moi parce que c'est mon frère. Je ne peux pas dire préféré, mais le frère que j'aime beaucoup. Avant Noël, je dis à Seigneur, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup prié, j'ai été demander pardon, je ne sais plus quoi faire, j'abandonne. Mais aide-moi. Et ça, même 10 jours après, mon frère a rendez-vous sans faire exprès avec moi et on s'est réconciliés. Aujourd'hui, on est de nouveau retourné comme le premier amour, on s'aime de l'amour que tu nous as toujours donné. Le Seigneur, c'est, j'ai dû abandonner, j'ai dû dire je ne peux plus, c'est toi qui nous fais, il l'a fait. Le Seigneur, je te rends toute la gloire et que mon frère, à travers cette réconciliation, puisse aussi se tourner vers toi. Et je crois que tu vas le faire. Merci Seigneur pour la foi, que cette foi ne m'abandonne pas, que je puisse continuer à croire, même si je ne vois rien pour le moment. Mais c'est toi qui touche les cœurs, c'est toi qui nous attire à toi. Sois loué, sois béni, sois exalté au milieu de nous. Merci pour nos familles, Seigneur. Et nous te prions qu'aucun ne se perde. Amen.
Tu es le Dieu des retournements de situation. Tu es celui qui tient toutes choses dans ses mains. Nous le croyons encore aujourd'hui en tout ce que nous vivons au niveau mondial. Merci parce qu'au travers de la génération d'Abraham, Seigneur, toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Tu es le retournement des situations, et c'est vrai, de ce qui est pas bien, mal, tu arrives à ressortir quelque chose de bien pour nous, de bon. Et nous voulons en profiter, en jouir, en te remettant nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui nous sont chers, de parce que nous ne sommes que des grains de poussière dans cet univers. Mais ces grains de poussière, Seigneur, tu les aimes et tu t'es donné. Et pour cela, nous voulons te dire un grand merci.
Amen.
Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te demander la protection sur nos familles. Et Seigneur, c'est vrai que des fois, il y a de la confusion, c'est compliqué. Mais Seigneur, nous voulons demander ta protection. Seigneur, pas que le malin vienne s'interférer dans toutes nos relations que nous avons avec nos familles, avec nos enfants, nos parents, même plus large. Nous voulons, Seigneur, que tu nous protèges, que ton Saint-Esprit nous protège. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour avoir des relations, des chouettes relations, des relations saintes et des relations de bienveillance. Alors, Seigneur, nous voulons te demander, par ton Esprit Saint, nous voulons de la bienveillance sur nos familles, Seigneur Jésus. Alors, sois présent dans elles et Seigneur, que nous ayons le courage, comme l'a dit aussi Clémentine, que nous ayons le courage de prier et des fois de prendre sur, de déposer nos rancœurs, les blessures, que nous puissions te les donner, et Seigneur, que nous puissions retourner vers toi, Seigneur, les déposer à la croix, et Seigneur, retourner vers nos familles, vers nos amis, vers les personnes, vers des relations saines et bienveillantes. Alors merci Seigneur Jésus de nous accompagner dans notre quotidien. Amen. Je vais vous proposer un moment de Sainte-Cène. Et pour introduire cette sainte scène, je vais vous lire un peu à la suite de ce qu'a dit Benjamin dans Romains. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés, bien que nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Et cette réconciliation, c'est grâce à la croix. Donc, pour cette sainte scène, à cette croix où le corps était brisé, où le sang a coulé, eh ben, nous retrouvons ce souvenir par cette sainte scène. Donc, ne vous en privez pas, si un sang a coulé, le corps a été meurtri à cause de nous, mais aussi pour nous. Donc, prenons-le vraiment. Accaparons-le pour nous. Et nous lirons l'institution de la Sainte Cène.
Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit : J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit : Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous.
Seigneur, nous te remercions pour ton corps qui a été livré sur la croix et qui nous réconcilie avec le Père. Seigneur, merci pour ce signe que tu nous donnes, que tu viens habiter en nous, que tu veux t'asseoir à notre table, que tu veux être en relation avec nous. Seigneur, viens effacer tout ce qui pourrait nous empêcher d'être en communion avec toi. Amen. Amen.
Pour la Sainte Cène, donc nous avons les plateaux. Vous voyez le slide, donc avec le jus de raisin au milieu et le vin aux alentours. Merci. Merci aussi à Elisabeth qui vient nous aider. Si vous voulez, donc si vous préférez boire à la coupe, donc comme c'est indiqué, levez la main et Benjamin viendra vers vous. Et pendant ce temps, c'est vraiment le partage de la Sainte Cène que nous pouvons le faire dans cette famille mérinoise, mais
élargie, je dirais. Et je crois que cette Sainte Cène est partagée par toutes les églises qui se rencontrent aujourd'hui dans le monde. Et je pense que cette réconciliation à la croix avec Jésus, ça peut aussi continuer d'être un moment de prière libre, si vous avez envie de partager quelque chose, ou intérieurement, de le prier au fond de vous-même. Donc si vous avez envie de le partager, ne vous gênez pas de continuer la prière que nous avons commencée. Notre Père, en restant assis, et vraiment le chanter comme une prière. Donc restez seulement assis.
Soit sanctifié.
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Il est magnifique ce chant, non ? Nous allons passer un petit moment de collecte, donc c'est... nous en avons besoin pour faire tourner notre église, pour nous servir, pour toute l'organisation de notre église. Donc merci d'y faire bon accueil. Alors vous aurez le slide avec le QR code pour ceux qui souhaitent prendre par tweet. Autrement, on passe dans les rangs avec des petites pochettes.
Et
pendant ce temps, voilà le slide pour le tweet. S'il n'y a pas trop de monde, je vous propose de passer directement aux annonces. Donc le 8 février aura lieu le culte du réseau évangélique et je vous encourage vraiment à y participer parce que nous nous retrouvons tous les membres de nos églises genevoises et alentours du Grand Genève et je crois que c'est vraiment, nous sommes le peuple de Dieu de cette région du Grand Genève et je crois que c'est chouette de nous rencontrer une fois ou deux fois dans l'année tous ensemble. Que ce soit nos églises latino, plutôt anglaises, plutôt... Je crois que c'est chouette vraiment de se dire, ben, nous sommes les églises genevoises. Nous sommes ce peuple de Dieu qui louons Dieu dans ce Grand Genève. Alors donc ça, c'est le 8 février, donc aura lieu à Palexpo. Alors, pour ceux qui n'aiment pas ce genre de rencontre, l'église a quand même organisé un petit moment de partage. Donc... pour celles et ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, quelque chose sera organisé ici. On peut, comme ça avait été fait un peu l'année passée, pour ceux qui étaient là, vous savez qu'il y a eu un petit moment de partage. Après, nous aurons le 13 mars un colloque. Donc, un colloque, c'est une assemblée générale, comme on dit dans les sociétés. Et puis, n'oubliez pas non plus, ou mardi déjà, qu'il y aura les week-ends d'église, les 10 et 11 octobre 2026. Donc, marquez dans vos agendas, réservez déjà ces dates. Et puis, alors, on vous encourage aussi par rapport au cours alpha. Nous allons, avec l'accord du conseil, et puis nous allons organiser un cours alpha après les vacances. Donc, réfléchissez aux personnes que vous pouvez inviter. Parce que c'est vrai que si on organise un cours, alors merci s'il y a déjà des personnes qui s'intéressent, on dit oui, moi je peux faire la cuisine, je peux animer, ou je peux être. Nous allons être un petit groupe à l'organiser. Merci de venir vers nous, ou vers Thierry, Terra, voir qui c'est qui s'intéresse à être présent, à participer d'une façon ou d'une autre. Mais nous demandons vraiment à l'Église d'imaginer ou de réfléchir qui c'est que vous pouvez inviter, qui ne sont pas forcément croyants, mais bien qui se posent des questions. Et puis ce cours alpha, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait de pouvoir expliquer qu'est-ce que la foi chrétienne sans jugement, dans la bienveillance. Et puis si les gens ne sont pas d'accord, ils disent « oui, mais moi je croyais que c'était comme ci, comme ça », eh bien explique-toi. Et puis il n'y a pas de conclusion, alors ça m'a surpris un petit peu quand on a fait le premier. Il n'y a pas « ah non, ça c'est pas juste ce que tu penses, il faudrait que c'est plutôt comme ci ou comme ça », il n'y a pas. Il y a vraiment dans la bienveillance. Et je crois que pour ceux qui ont participé l'année passée, je crois que c'était vraiment quelque chose qui était bienveillant. Donc n'hésitez pas, réfléchissez déjà aux personnes à qui vous pouvez inviter. Je vous remercie. Et je crois que j'ai fini avec les annonces. Ouais, on a le temps encore pour un chant. Allez, un chant, un petit peu d'envoi. Allez, on y va. Je vous demanderai de vous lever. Thank you.
reste un maître.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Et sans rien ici par le m'arrêter, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour.
À tous ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ, nous avons le droit de devenir enfants de Dieu, alors que cette conviction nous accompagne sur notre chemin à la suite du Christ. Amen.
Amen. Merci.
Alors, si vous le souhaitez, il y a encore un petit café qui est vraiment convivial.
Viens avec. Avec plaisir, c'est vrai que c'est quelque chose.
Oui, moi j'entendais, ouais.